Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
L'armistice du 11 novembre 18 met fin donc à 4 années de guerre. Des années durant lesquelles les couples et les familles séparées ont sans cesse imaginé la fin de l'épreuve, anticipé et rêvé le moment des retrouvailles et du retour au foyer. L'intensité de l'émotion collective, racontée dans les témoignages à l'annonce de l'armistice, les descriptions d'explosions de joie, de délire même quand elles sont cruellement accompagnées, comme Annette le montrera tout à l'heure, de la douleur de ceux qui sont frappés par le deuil, donne la mesure de cette attente partagée et si puissamment présente durant tout le conflit. Et en réalité, tout laisse à penser que le retour, qui est un véritable point de fuite de la guerre, commence bien avant le retour réel. Car dès la mobilisation, le retour est formulé avec force, comme si le départ ne pouvait s'envisager qu'en imaginant l'évidence du retour. Penser le retour, c'est rendre le départ possible, en évoquant par avance la certitude et la joie des retrouvailles, pour permettre de vivre moins douloureusement l'expérience qui s'annonce et la séparation forcée, en l'inscrivant d'emblée comme une parenthèse dans la vie. Dans l'expression du retour, vous allez le voir, se logent des paroles magiques qui doivent écarter ce que la guerre forcément promet à nombre de combattants et à leurs familles, la mort. Alors dans les maisons et sur les fronts, on a voulu croire à une guerre courte. On s'est quitté en datant le retour. Ce sera pour Noël. Une date qui permet la projection dans un avenir relativement proche et à Noël pour renforcer l'efficacité de la conviction. Mais la guerre s'installe dans les vies. Durant tout le conflit, qu'il s'agisse du retour définitif ou des permissions instituées en 1915, retour provisoire certes, mais retour tout de même, et avec la guerre qui dure, plus accessible que le grand retour, le retour donc reste une préoccupation constante, comme l'écrit le soldat Hippolyte à sa femme Félicie en novembre 1915. C'est la guerre, et là-dedans, pour nous, le principal, c'est le retour. Mais que le retour soit ardemment attendu, imaginé, anticipé, ne signifie pas pour autant que lorsqu'il arrive enfin, il aille de soi. Peut-être même le défi est-il plus grand encore du fait qu'il ait été tant rêvé? D'où revient-on et pour revenir où? Y a-t-il seulement, après ce qui a été vécu, un véritable retour possible? Entendu, le terme de retour, comme un mouvement rétrograde vers l'état ancien que l'on a quitté. Le sujet est important, car sur les 7 891 000 hommes mobilisés en France durant le conflit, 6 515 200 reviennent. Donc c'est un sujet qui concerne énormément de monde. Donc observer le retour des combattants en passant avec eux la porte des maisons, en tentant en tout cas de passer avec eux la porte des maisons, permet de comprendre pourquoi cette guerre continue de nous fasciner, d'aimanter nos intérêts et nos imaginaires. Car c'est dans les familles que l'onde de choc a sans doute été la plus profonde. Et c'est en observant les retours que l'on peut approcher l'importance du bouleversement provoqué par la Première Guerre et l'influence qu'elle a exercé sur le quotidien des familles, sur les relations entre les membres du groupe familial et sur la circulation affective en son sein. De toute évidence, la démobilisation intime n'obéit pas à la même temporalité que la démobilisation militaire. Le retour au foyer doit donc être approché dans un temps plus long qu'il n'y paraît, parce que durant tout le conflit, sa pensée, son anticipation ont entamé un processus dans lequel s'inscrit le retour tant attendu. Ce retour, se situe dans une trajectoire de réinvention de reformulation de soi-même et de la relation aux autres. Donc pour comprendre l'importance du bouleversement social et intime que représente la Grande Guerre, il faut rappeler quelques chiffres. Dès le 1er août 1914, c'est une énorme proportion de la population masculine qui est appelée sous les drapeaux. Sur une population qui s'élevait en 14 en France à 41 630 000 personnes, 3,6 millions d'hommes passent brutalement sous l'autorité militaire. À l'automne 14, dans une France majoritairement rurale, et à l'heure où il faut préparer les récoltes, les 2/5 des hommes en pleine force de l'âge sont déjà partis.
C'est Dominique Fouchard qui s'exprime ainsi. Docteur en histoire, elle enseigne l'histoire-géographie au lycée Hélène Boucher à Paris. Elle a publié en 2013 aux presses universitaires de Rennes « Le poids de la guerre, les poilus et leurs familles après 1918 ». C'est un ouvrage qu'elle a tiré d'une thèse qu'elle avait soutenue en novembre 2011 sous la direction d'Annette Becker. Nous consacrerons une seconde émission à la communication de l'historienne qu'elle avait intitulée « Après 4 ans, des familles bouleversées par la guerre ».
Les 29 et 30 août dernier, la librairie Majolire, en partenariat avec les historiales de Pressin, organisait le premier festival de livres d'histoire autour de la Première Guerre mondiale. Plus précisément, des conséquences de cette guerre sur la vie des femmes pendant le conflit et après, ainsi que sur les changements que cette guerre a pu provoquer dans la société française. Le deuxième numéro du magazine Au fil des arts lui est consacré. Nous allons demander à Serge Revel qu'il nous en dise un peu plus sur ces historiales qu'il organise chaque année dans sa commune de Pressin en Isère depuis 1989.
Bonjour. Merci. Serge Revel.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots les historiales, qui est le nom de votre association, et le partenariat des historiales avec la librairie Majolire?
Alors les historiales, c'est depuis 1989, ce sont des spectacles historiques tous les 2 ans, sur tous les thèmes. On a abordé Henri IV, Louis François Ier, la révolte des Canuts, etc. Et la dernière fois, jusqu'à cette année, les 3 dernières années, la guerre 14-18. Et c'est dans ce contexte qu'on travaille avec la librairie Majolire pour en organiser pour la première fois. Avec la librairie, nous, on a prêté le terrain, nos forces. On a organisé donc le premier festival de livres d'histoire, fou d'histoire, avec des personnes de haute renommée, hein, puisqu'il y a Annette Becker, vous l'avez dit, Mme Fouchard et beaucoup d'autres, ce qui donne du poids et une grande classe à ce que nous organisons sur place.
Est-ce que pour vous, qui organisez cette manifestation depuis longtemps, le partenariat avec une librairie est quelque chose qui ajoute en matière de qualité, en matière peut-être d'intérêt d'autres spectateurs?
Ah oui, ça ajoute beaucoup au niveau de la qualité de la classe, hein, puisque les interventions étaient de haute tenue. En plus, ouverte à tous, compréhensible par tout le monde. Et bien sûr, ça attire un peu plus de monde, puisque c'est un autre type de public qui vient, qui se rend compte que ce que nous présentons est aussi de grande qualité.
Très bien, merci Serge Revel. Au revoir.
Alors Daniel Herrero, pouvez-vous maintenant expliquer à nos auditeurs le pari de ce festival, le premier dans notre région consacré aux livres d'histoire, et pourquoi ce titre « Fou d'histoire » avec un S entre parenthèses après histoire ?
Fou parce que nous sommes passionnés. Passionnés d'histoire, passionnés de raconter, d'où il y a un fou, le fou de l'histoire avec un grand H, mais il y a aussi tous les fous, des histoires individuelles, des romans, des bandes dessinées et de toute autre forme de littérature. Donc, ce festival a été le premier et il a porté sur les conséquences de la guerre, sur les bouleversements de cette guerre de 14-18 qu'on a appelée la Grande Guerre. Et ce qu'on a voulu montrer, essayer de comprendre, c'était que chaque jour, il faut comprendre que chaque jour, 1000 soldats étaient tués en moyenne et 2000 blessés pendant 5 ans. Ce qui veut dire qu'en 3 semaines, la ville de Bourgoin-Jallieu avait disparu. Donc, ce qu'on voulait faire comprendre, c'était comment les Français ont vécu l'après-guerre, le retour de ces soldats. Ceux qui, d'une part, n'ont pas vu leur mari ou leur fiancé revenir, et celles qui ont vu leur mari revenir, mais un mari complètement épuisée, fatiguée, dont le corps est abîmé et qu'elle ne reconnaît plus. C'est ce que nous avons voulu montrer, et ce pari de fou d'histoire a allié à la fois des historiens de métier, des universitaires, des professeurs, mais aussi des romanciers, des auteurs de bandes dessinées, et nous avons pu ainsi avoir des échanges sur ce qu'était la relation entre histoire et fiction. Et quand on échange sur cette question, les historiens et les romanciers s'aperçoivent que les barrières ne sont pas aussi importantes que l'on croit. Il y a de la porosité entre histoire, imagination, roman, imagination, roman, réalité, histoire, fiction. Et donc, c'est un peu ce pari que nous avons voulu relever.
On pourrait juste ajouter que ce festival, il se déroule dans un lieu un peu particulier, une espèce de clairière en pleine campagne.
Ah, c'est un lieu magnifique, et d'ailleurs les auteurs qui sont venus de Paris et de Lille ont découvert cet amphithéâtre de verdure, où l'on a pu aussi se reposer calmement, bien qu'il ait fait très chaud lors de ces deux journées, mais ce cadre champêtre allait tout à fait avec l'atmosphère des sujets traités.
Alors, on a passé un peu vite sur la localisation précise. Pressin, c'est où ?
Alors, Pressin, c'est dans le Nord-Isère. C'est à 25 km de Bourgoin-Jallieu et à 5 km de la Tour du Pin. Donc, je crois que les Nord-Isérois connaissent bien la ville de Pressin.
Alors, nous allons entendre maintenant la chanson de Craon, Daniel Hérault.
Alors, Craon, c'est une chanson. La chanson de Craon a été écrite en 1917 par un auteur anonyme. Nous ne connaissons pas le nom de cet auteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été écrite à un moment donné où les soldats, qu'ils soient français, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient néo-zélandais ou australiens, menaient des assauts terriblement meurtriers. Pour vous donner un seul exemple, le 1er juillet 1916, 20 000 hommes mouraient en une seule journée et 40 000 autres étaient blessés dans les rangs de l'armée britannique. Donc cette chanson, qui est une chanson contre la guerre, qui dit la misère des soldats, dit aussi la colère des soldats contre les généraux et contre ceux qu'ils appellent des riches qui s'enrichissent, selon eux, en faisant la guerre, en fabriquant des obus qui tuent, qui déchiquettent ces soldats, qui les meurtrissent dans leur chair. Et donc ces hommes qui parlent de leur souffrance disent à ceux de l'arrière, si vous voulez faire cette guerre, eh bien montez sur le plateau, car Craon, c'est un plateau.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux civils. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Nous sommes sur Couleur FM 97.1 dans le magazine Au fil des arts. Alors, à ce festival fou d'histoire, il y avait aussi Annette Becker, historienne, professeure à la fac de Nanterre. Elle est une de nos plus éminentes spécialistes de la Première Guerre mondiale et elle a publié plusieurs ouvrages sur la question et notamment un livre avec Stéphane Audouin-Rouzeau, autre grand spécialiste, dont le titre est « La Grande Guerre 1914-1918 ». Ce jour-là, elle a commencé par dire les raisons pour lesquelles elle avait accepté l'invitation du festival.
Si je me suis intéressée à la Grande Guerre, c'est parce que j'avais un grand-oncle dans un petit village tout près d'ici qui s'appelle la Chapelle de la Tour. Il avait fait Verdun, il était le président des anciens combattants. Et quand j'étais une toute petite fille et que j'étais le 11 novembre chez mes grands-parents, eh bien j'allais toujours au monument aux morts. Du plus ancien, je pense que c'est un de mes plus anciens souvenirs, de voir ce monsieur qui était pour moi très, très, très vieux et qui était un peu le bout en train de la famille. Et ce jour-là, il était absolument, tragique. Et on m'a raconté aussi qu'en 1936, pour un anniversaire, hein, celui de Verdun, il était retourné à Verdun. Et ce bout en train, qui en 1936 était encore un très jeune homme, il est rentré à la Tour du Pin, à la Chapelle de la Tour, de son pèlerinage à Verdun, et il a pleuré. Et donc, vous voyez, le sujet de cette conférence, eh bien, vient sans doute de là, et c'est pour ça que j'ai été si heureuse de répondre à l'invitation de Daniel, et que j'ai proposé de parler du deuil.
On passe maintenant à ce qui fera l'essentiel de la présentation d'Annette Becker, son travail sur le deuil. Pour des raisons faciles à comprendre, nous avons dû extraire de cette communication les seuls propos qui ne s'accompagnaient pas de diapositives.
Mais il y a ceux qui ne reviennent pas, et ceux qui sont restés, eh bien, doivent vivre aussi avec cela, doivent vivre avec l'horreur des séparations, avec cette vie brisée pendant, et avec cette vie désormais brisée pour toujours, parce que cette fois, il n'y aura pas de retour, retour qu'on a tellement espéré, mais là, on ne l'aura pas. Et pour parler de deuil, eh bien, quelle meilleure introduction que Sigmund Freud, qui est devenu le maître du deuil, et il l'est devenu à cause, ou grâce, à la Première Guerre mondiale. Voilà ce qu'il disait dès 1915, dans un petit livre magnifique qui s'appelle « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort ». Il rappelait que les hommes d'avant 1914 avaient voulu oublier la mort, l'éliminer de la vie, c'est ce qu'il disait. Et en effet, les hommes de 1914 étaient les enfants de la révolution démographique. Pour la première fois, les parents, les grands-parents, continuaient à vivre quand les enfants arrivaient à l'âge adulte. C'est la première fois de l'histoire. Et tout d'un coup, les jeunes gens allaient mourir en masse. Et cela, il le voit dès 1915. Il dit que la guerre ramène la mort à l'échelle industrielle et c'est absolument insupportable. D'où sa sagesse, il dit cela, supporter la vie reste bien le premier devoir de tous les vivants. Rappelons-nous le vieil adage, si vis pacem, para bellum, si tu veux maintenir la paix, arme-toi pour la guerre. Il serait d'actualité de la modifier, si vis vitam, para mortem, si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort. Or, en 1914, eh bien, évidemment, personne n'était prêt pour l'hécatombe. Et en 1918, il y avait près de 10 millions de morts, avant tout des morts militaires et avant tout des hommes qui avaient porté donc un uniforme, ceux dont on a parlé ce matin, dont 1 350 000 Français, mais aussi des civils victimes d'atrocités, de la faim, de maladies et de l'extermination. Il s'agit bien sûr d'un certain nombre de Russes et en particulier de Juifs russes et surtout des 1 200 000 Arméniens de l'Empire ottoman. Tous ces hommes, toutes ces femmes, et dans le cas des Arméniens, tous ces enfants, avaient disparu pendant et dans le conflit. Voilà des militaires disparus à travers un cimetière militaire tel qu'il existe aujourd'hui. Je disais que le résultat de la mort, d'un point de vue public, se voit dans les paysages. Voilà comment Freud décrit le total effondrement quand la mort a frappé un de nos proches, parents ou époux, frères ou sœurs. Nous enterrons avec lui nos espoirs, nos exigences, nos jouissances. Nous ne nous laissons pas consoler et nous nous refusons à remplacer celui que nous avons perdu. Et cette idée de refuser le remplacement me semble au cœur de ce deuil de guerre. D'ailleurs, pendant toute la guerre, Freud est absolument tourmenté parce que cet Autrichien, pas d'un nationalisme extrême, mais d'un patriotisme sérieux, eh bien, il est père de famille. Il a 3 fils au front et il les appelle ses guerriers. Et il est absolument obsédé par le fait que ses guerriers, eh bien, pourraient être blessés, pourraient être faits prisonniers. Et il n'envisage même pas, lui, qui écrit sur le deuil, de penser que certains de ses 3 fils, l'un d'eux, pourraient mourir. Et justement, il ne fait pas l'expérience du deuil de guerre avec ses fils. Mais il va perdre une de ses filles, Sophie, pendant l'épidémie de grippe espagnole de 1918-1920, et sa fille Sophie meurt en janvier 1920. Il faut bien voir que à cette époque-là, l'épidémie des grippes est alors perçue absolument comme le prolongement de la guerre. Elle est vue comme le dernier coup porté aux rescapés. Et voilà ce que Freud écrit le même jour à son gendre, le mari de Sophie. J'ai l'impression que je n'ai jamais écrit une lettre qui soit plus superfétatoire. Tu sais combien grande est notre douleur. Nous savons la peine qui doit être la tienne. Je ne fais aucune tentative pour te consoler, de même que tu ne peux absolument rien pour nous. À quelle fin écris-je donc? C'est un acte du destin absurde et brutal qui nous a pris notre Sophie. Quelque chose face à quoi on ne peut ni accuser, ni ruminer, mais incliner la tête sous le coup. Pauvre être humain sans recours, avec lequel jouent des puissances supérieures. Et Freud ne va en fait jamais se remettre de la mort de sa fille, et il continue pendant toute sa vie à parler de ce deuil. C'est effectivement vrai qu'au début, on ne le conçoit pas, qu'on ne veut pas le croire. Et ce n'est que moyennant un long travail que cela se ferait un passage, de sorte qu'on est forcé de le croire. Chez nous aussi s'accumulent les lettres de condoléances. Les autres sont là par les condoléances. À quoi cela nous avance-t-il? Nous sentons qu'avec elle, c'est notre éclat qui s'en est allé. Il est encore plus franc avec ses amis. Comme je suis profondément incroyant, je ne peux incriminer personne et je sais qu'il n'existe aucun lieu où l'on puisse déposer une plainte. Mon épouse et Anna sont gravement ébranlées dans un sens plus humain. Et donc voilà cet homme qui avait pendant toute la guerre réfléchi à la mort, réfléchi au deuil. En psychanalyste, en médecin, il lui fallait en fait le drame personnel, le drame intime de la perte d'une enfant, d'une jeune adulte, comme tous les morts de la guerre, pour partager l'expérience intime des autres. La mort est insupportable, toute mort, et la mort dans cette guerre particulièrement choque devant le désastre, les champs de tuerie de Nash, la fragmentation des corps déchiquetés, atomisés, les bombardements de villes, les atrocités contre les civils. Bien, en 1918, cette notation concerne l'essentiel des survivants du conflit, que ce soit des anciens du front, ou front militaire comme on dit aujourd'hui, que ce soit les enfants de l'arrière, ce sont eux qui vont vivre dans le souvenir et le deuil des morts, et qui vont essayer d'une façon ou d'une autre de les faire revivre, tout en sachant bien, sans aucun nombre de doutes, que c'est impossible. Les uns vont se lancer dans l'héroïsation, les autres vont se lancer dans le pacifisme. Mais c'est une même façon d'essayer de faire ce dont on sait que c'est impossible. C'est-à-dire, sauf essayer ici de faire, pour reprendre un terme de psychanalyse, la clôture, essayer de, au moment où le dernier combattant français, alors l'homme qui a inventé la commémoration moderne, eh bien, c'est mon homme, si je peux me dire les choses, puisque je suis une fanatique d'Apollinaire. Et il l'a inventé de façon absolument extraordinaire dans un ouvrage qui s'appelle « Le poète assassiné ». Et cet ouvrage, il l'avait écrit pratiquement intégralement avant la Première Guerre mondiale. Ça montre toujours que les intellectuels, du moins les grands intellectuels, ont toujours un peu une avance sur les sociétés. Et donc dans « Le poète assassiné » ou son double, qui est un poète, Cronia Mental, a toutes sortes d'aventures, dont un assassinat, puisqu'il y a un pogrom de poètes dans ce livre remarquable, que je vous conseille à tous de lire. Eh bien, quand le héros est assassiné, finalement, ses amis lui font un monument commémoratif. Et donc, il invente, dans l'année 1912-1913, quelque chose qui va s'appliquer à lui et qui sortira en librairie en 1916, alors qu'il n'est que blessé à la tête. C'est ce que vous voyez sur les deux images qui sont deux couvertures du poète assassiné, où on voit deux artistes amis d'Apollinaire le représentant sur son livre alors qu'il est blessé à la tête. Lui-même mourra de la grippe espagnole, comme la fille de Freud, et on ne dira jamais qu'il meurt de la grippe espagnole, parce qu'un intellectuel s'est blessé à la tête, et ça meurt de la tête, ça meurt pas d'une vulgaire grippe. Et donc, ce qu'il en reste, c'est ce texte où il donne des coups de patte à des personnes autour de lui, son grand ami Picasso, qui n'est pas très gentil avec lui pour toutes sortes de raisons, et son amoureuse de l'époque, qui est Marie Laurencin, il ne faut pas confondre avec Lou, parce qu'il ne la connaissait pas quand il a écrit ce texte. « Il faut que je lui fasse une statue, dit l'oiseau du Bénin, c'est Picasso, car je ne suis pas seulement peintre, mais aussi sculpteur. C'est ça, il faut lui élever une statue. Mais où ça? Le gouvernement ne nous accordera pas d'emplacement. » Les temps sont mauvais pour les poètes. Une statue en quoi? En marbre? En bronze? Non, c'est trop vieux. Il faut que je lui sculpte une profonde statue en rien, comme la poésie et comme la gloire. Bravo, bravo, une statue en rien, en vide, c'est magnifique. Et quand? Là, sculpturez-vous. Eh bien, vous voyez, ce texte est absolument extraordinaire, parce que derrière ce rien, il y a aussi le tout. Et donc, on peut mettre ce qu'on veut. Une fois que ces hommes et quelques civils, ces femmes, sont morts, eh bien, on peut mettre ce qu'on veut dans le souvenir. On peut y mettre en particulier du rien, mais le rien, même Apollinaire, je pense que ça ne l'aurait pas séduit finalement. À partir du moment où il est rentré en guerre, eh bien, il ne voyait les survivants que comme des rescapés. Et finalement, c'est pour ces rescapés, dont il n'a pas fait partie, que reste le souvenir et que reste le mot commémorer. Commémorer, ça veut dire se souvenir avec. Et donc, le tout est de trouver les groupes ou les façons d'être ensemble qui permettent de se souvenir, acte dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était impossible pratiquement. On peut se souvenir, mais on ne peut pas faire son deuil d'une telle catastrophe.
Nous allons écouter maintenant un extrait de la bande-son du film « Les Croix de bois » de Raymond Bernard. Ce film, adapté du roman de Roland Dorgelès, prix Femina en 1919, a été tourné en 1938, quelques années avant le deuxième conflit mondial. C'est un film résolument pacifiste. En évoquant la triste vie des poilus dans les tranchées des plaines de Champagne, « Les Croix de bois » se voulait un plaidoyer contre la guerre. L'extrait que nous allons écouter montre quelle était l'intensité des tirs auxquels étaient soumis les soldats.
Thank you. Tenez, laissez-moi tranquille. Attention, les grenadiers en tête.
Super, tu as bien l'adresse de chez moi.
Nous sommes sur Couleur FM 97.1 dans le magazine Au fil des arts. Daniel Herrero, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Louis-Pascal Jacquemont qui a présenté durant le festival la condition des femmes pendant la guerre ?
Louis-Pascal Jacquemont est un collègue. Il était professeur d'histoire et géographie au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. Agrégé d'histoire, il a ensuite était formateur, chercheur à l'INRP, puis inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie. Actuellement, il est à Sciences Po et il prépare des jeunes de Sciences Po à l'agrégation d'histoire. Il a écrit donc un ouvrage sur la place des femmes dans l'histoire. C'est un des auteurs de cet ouvrage. Et il a écrit une biographie sur Irène Joliot-Curie.
Conditions des femmes pendant la Première Guerre. Vous savez que les travaux des historiens ont pas mal avancé sur ces thématiques. Grosso modo, on recense environ 500 travaux de thèse et de synthèse qui ont été faits sur les 10 dernières années. Ce qui est beaucoup compte tenu que la communauté des historiens, des étudiants en particulier en histoire, a plutôt diminué. Alors, pour se poser cette question-là, sur la condition des femmes pendant la guerre, je pense qu'il est légitime de se poser une première question. C'est qu'est-ce que c'est que ce bornage 14-18 que l'on utilise pour la Première Guerre mondiale ? Et ensuite, la guerre a-t-elle émancipé les femmes ? Eh bien, je suis amené très vite à répondre à la première question. Qu'est-ce que 14-18 ? C'est quelque chose qui est faux, parce que la Première Guerre mondiale, c'est pas ça. Et ensuite, la guerre a-t-elle émancipé les femmes ? Eh bien, je vais répondre non. Et je vais essayer de nuancer. Alors, premier élément, 14-18, ce qu'on appelle 14-18. Voilà l'Europe en 1914, l'Europe des empires, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste pour situer, il n'y a pas de détails à regarder. Europe des empires et d'un certain nombre d'alliances qui ont été fabriquées pour pouvoir déclarer la guerre. Donc ça fait 20 ans avant 1914 qu'on souhaite envisager la guerre. Ça a failli se réaliser en 1912, ça a failli être en 1906. Ça arrive en 1914, mais d'une certaine manière, c'est dans l'air. C'est considéré comme inéluctable. Cette première guerre, elle débute officiellement dans nos manuels, notre histoire, à l'attentat de Sarajevo, en 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche par un jeune Serbe qui s'appelle Gavrilo Princip, et qui appartient à une minorité nationaliste qui voudrait constituer une Serbie, alors que la Serbie appartient à l'Empire d'Autriche. Voilà, qui faisait partie du réseau La Main Noire. On a l'habitude de mettre comme tranche chronologique, on démarre juillet-août 1914, et on termine en 11 novembre 1918, même si je ne travaille que pour la France. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Ben parce que pour les Français, on a bien l'armistice, on a bien 11 novembre, on a bien... Mais ensuite, il y a toute une série de phases de traités. C'est-à-dire que les armées ne sont pas rentrées chez elles. Elles sont encore en partie sur le terrain. Et fait encore plus marquant, c'est que les armées françaises sont encore sur le terrain, notamment du côté de la Russie et du côté du Moyen-Orient et du côté de la mer Noire, jusqu'en mars 1921. Ce qui veut dire que la dernière classe qui rentre dans ces foyers... C'est la classe 1919. Ils sont tous nés en 1899. Ils ont 20 ans. Et ils ne rentrent dans leur foyer qu'en mars 1921. Donc vous voyez que la guerre se prolonge au-delà de ce que l'on imagine. Et du même coup, ça a des incidences sur l'ensemble des élèves. Vous connaissez très, très brièvement la constitution de cette nouvelle Europe à l'issue de ce qu'on appelle les traités de paix, dont le traité de Versailles n'est qu'un des éléments. Et c'est un petit peu la configuration de la carte actuelle, si je puis dire, mais en tout cas la matrice du XXe siècle, d'où sont sortis d'ailleurs une grande partie des conflits que l'on a connus, notamment dans les Balkans, dans les années toutes récentes. Alors, la condition des femmes, les femmes ont été immédiatement partie prenante de cette guerre. C'est effectivement un élément, jusqu'à maintenant on enseignait l'idée que la guerre c'est les militaires, la guerre c'est les soldats, la guerre c'est les citoyens-soldats. Mais là, on peut dire que c'est aussi l'autre front, le front domestique, l'arrière. Donc il s'agit en particulier des femmes, et comme pratiquement 60% de l'armée c'est l'infanterie, et que l'infanterie ce sont des paysans, dans cette société rurale, c'est surtout les paysannes qui ont eu à subir le contre-coup de la guerre. Et on voit avec cette photographie qui représente une femme en train de diriger un attelage de bœufs, comment, la mobilisation arrive au mois d'août, dès le mois d'août, il faut s'occuper des moissons, il faut s'occuper ensuite des travaux de labour. Donc comment il faut tout de suite se mettre au travail pour réaliser, si je puis dire, les travaux des champs. Deuxième volet de mobilisation de ces femmes, c'est celle que l'on appelle les obusettes ou les munitionnettes. Je vous signale d'ailleurs que le langage est quand même assez pervers. Parce que le diminutif « être » diminue également l'importance. Donc le lexique lui-même dit des choses sur la hiérarchie ou les valeurs que l'on attribue, et notamment les rapports de genre. On dira un obusier, on dira un ouvrier qui travaille sur l'arme ou un armurier, mais on dira jamais un diminutif par rapport à un homme. Pourquoi ça n'a pas vraiment émancipé ces femmes ? Eh bien, j'en veux pour preuve cette remarquable référence à celles qui ont été les anges blancs, c'est-à-dire les personnalités les plus remarquées pendant la guerre, les infirmières. Eh bien, c'est le monument officiel qui honore les infirmières de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez, comme moi, c'est un poilu couché. Et les infirmières, c'est ça. Vous voyez, aux infirmières françaises, les combattants reconnaissants. Donc c'est le bon moyen de dire que les femmes, ça n'a pas compté beaucoup au lendemain de la guerre. Ou plus exactement, que si on honore les infirmières, eh bien là, comme par hasard, on les honore d'une certaine manière en représentant ceux qui sont les héros de la guerre, donc les poilus. Donc on revient à cette idée que la guerre, elle est mise dans les têtes, elle est signifiée comme étant une affaire d'homme.
Le morceau que nous vous proposons d'écouter est extrait d'une composition d'Arthur Honegger qui avait voulu célébrer en 1923 les progrès technologiques qui ont marqué le début du XXe siècle et qui se sont accélérés durant la guerre de 14-18. Il s'agit donc d'un morceau qui s'intitule « Pacifique 231 » et nous avons choisi d'en diffuser la version qu'il a enregistrée dans un film documentaire, expérimental même, d'un critique de cinéma qui s'appelait Jean Mitry.
Thank you.
Dans une des tables rondes que le festival avait organisées qui s'intitulait « Histoire et psychanalyse », Christian Chaverondier, psychanalyste, répond à une question sur l'actualité de Freud et du regard qu'il portait sur cette guerre. On écoutera ensuite le commentaire qu'en fait Louis-Pascal Jacquemont.
Moi, c'est un point qui m'a complètement frappé dans mon propos, dans ma réflexion, c'est qu'au fond, il a vu comment la logique guerrière de la Première Guerre mondiale a complètement bousculé les repères symboliques qui organisaient le monde à l'époque. Il y a une traduction politique qui est évidente, que tout le monde connaît, c'est par exemple, c'était la fin des empires. Un empire, c'est une organisation étatique où, au fond, tout le monde est d'accord, qu'on se réfère à un principe, on ne parle pas toujours la même langue, on n'est pas toujours la même culture, mais il y a ce modèle-là qui unifie. Et là, c'est une des conséquences de la guerre, c'était effectivement la disparition des empires. Et à un niveau beaucoup plus proche du corps et du combat, c'est la disparition de ce qui avait commencé à naître au 19e siècle, excusez-moi, je parle peut-être pas assez fort, qui étaient les protections vis-à-vis avec la Croix-Rouge, vis-à-vis des blessés. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu énormément de morts en 14-18, justement parce qu'on ne pouvait pas secourir les blessés. Et que les gens mouraient aussi parce qu'ils étaient laissés à leur sort sur le no man's land. Et donc, alors qu'il était une pratique qui avait commencé à se penser politiquement au 19e siècle, qu'on ait un temps de trêve pour les blessés. Et là, Freud a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui avait disparu à ce moment-là. Donc c'est aussi pour moi une indication que ce qui compte, c'est la technologie engagée, donc l'artillerie, la volonté meurtrière, et l'humain est déplacé, est plus au centre de l'affaire. C'est en ça que on peut parler qu'il n'y a plus de protection symbolique autour de... Est-ce que je peux vous commenter un peu l'article de Freud ou si vous...
Je vous y invite.
Parce que donc il a vu des choses. Donc il n'était pas du tout au front. Hein, et il avait trois fils engagés, donc il avait sûrement des informations de ce qui se passait. Alors à la fois il y a un constat un peu tragique. Alors dans cet article, le titre c'est la désillusion causée par la guerre. Le premier article qu'il a écrit, puis il a écrit un article sur la mort. Et donc, il va développer cette question de la désillusion. La disparition du droit des blessés. Je poursuis la citation. « En proie à une rage aveugle, la guerre renverse tout ce qui lui barre la route, comme si après elle, il ne devait y avoir pour les hommes ni avenir ni paix. Elle rompt tous les liens faisant des peuples qui se combattent actuellement, une communauté, et menace de laisser derrière elle une animosité qui pendant longtemps ne permettra pas de les renouer. » C'est assez visionnaire.
Permettez que je demande à Louis-Pascal s'il y a un avis justement sur cette phrase de Freud qui est quasi...
La guerre, il a raison quand il dit que la guerre, c'est l'inversion totale des valeurs. C'est-à-dire que tu ne tueras pas devient tu dois tuer. Donc on a comme ça tout un processus de fonctionnement qui va faire que l'individu que l'on considère comme civilisé doit se déciviliser, se barbariser, pour pouvoir répondre à... Alors, je vais le remettre en perspective parce que la fin du 19e siècle, c'est pas un hasard si la psychanalyse va déboucher sur toute une série de processus qui prennent en compte la façon dont se pensent les individus, se projettent les individus, se comportent les individus à ce moment-là. On a tout un processus du 19e siècle qui va rendre scientifique, si je puis dire, tout ce qui existe et qui va naturaliser également tout ce qui existe. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la nature profonde de l'homme est d'être mauvaise. La nature profonde de l'homme est d'être, d'une certaine manière, guerrière, belliciste, etc. Et c'est la civilisation qui, d'une certaine manière, va polisser tout cela, créer un processus par lequel il acquiert des valeurs, il prend de la distance par rapport à cette nature profonde. Et d'une certaine manière, la médicalisation très avancée et la réflexion scientifique qui est menée au XIXe siècle va chercher toutes les lois naturelles qui, d'une certaine manière, régissent le monde et les hommes. Et la psychanalyse se situe dans cette perspective. elle met en place à un moment donné, elle arrive à un moment donné où il y a besoin, d'une certaine manière, d'apporter des éléments de réflexion sur ce processus. Et il est évident que, comme c'est la fin du 19e siècle, et c'est après les années 1870, la réflexion de ces scientifiques va porter massivement sur la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui est effectivement un traumatisme considérable pour l'Europe. Alors, par rapport à cela, toute la réflexion va être menée à tel point que l'on va croire que le fait que la nature est en quelque sorte soit revenue au galop, c'est un retour en arrière, et ce retour en arrière est d'une certaine manière l'effondrement de la civilisation. C'est Valérie, civilisation, vous êtes mortelle, c'est l'anéantissement, c'est tout ce processus intellectuel qui remet en question toute une série de phénomènes et qui va dans le domaine à la fois de l'anthropologie mais aussi de la médecine amener à devoir un petit peu rectifier le tir, c'est-à-dire se dire mais l'humain, est-ce que l'humain c'est simplement un grade particulier par rapport au naturel ou bien est-ce que c'est autre chose ?
Daniel Herrero, on a parlé à plusieurs reprises pendant ce festival de phénomènes de brutalisation concernant cette guerre.
Oui, c'est une notion qui a été inventée par un historien anglais, George Moss, qui a parlé de « brutalization ». On a traduit par « ensauvagement, brutalisation ». Alors, brutalisation dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que les hommes ont été brutalisés dans leur chair, atteints dans leur chair, mais qu'ils sont aussi devenus des brutes. Alors, il faut nuancer, car s'il est vrai que certains soldats, et en particulier du côté allemand, alors ce n'est pas une particularité des Allemands, mais les soldats allemands ont perdu la guerre. Ils l'ont faite, ils ont été gravement atteints par la guerre, mais ils ont été battus, vaincus. Et donc, les Allemands ont ressenti la défaite comme une trahison. Et ceci fait que on a pu parler de brutalisation, car dans les années d'après-guerre, les anciens combattants allemands, contrairement aux anciens combattants français qui, eux, ont lutté pour le pacifisme, les anciens combattants allemands se sont organisés en troupes, en sections d'assaut, qui ont formé les SA d'Hitler. C'est-à-dire que l'idée était la suivante, on a été trahi par la guerre, ça a été une trahison, un coup de poignard dans le dos, et maintenant on va se venger. Donc cette idée de brutalisation de la société, elle traduit des comportements de certains groupes et aussi elle traduit une autre idée. C'est l'idée des massacres de masse. Jamais dans les guerres il n'y a eu autant de massacres de masse, aussi bien de soldats, de prisonniers que de civils. Des civils qui ont été dans les régions occupées et qui ont été, en particulier les femmes, qui ont été violées rien que lors des 6 premières semaines de l'occupation de la France du Nord et de la Belgique, il y a eu 70 000 femmes qui ont été violées. Donc, cette brutalisation, c'est pas simplement entre soldats, c'est aussi à l'égard des civils.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène nouveau qui apparaît ou qui s'amplifie à l'occasion de cette guerre?
Tout à fait. Les historiens qui ont comparé toutes les guerres depuis l'Antiquité, parce que et dans toutes les guerres, il y a eu de la violence. Mais il n'y a jamais eu autant de violence que dans cette guerre. Cette guerre représente une rupture dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Eh bien, c'est la première guerre de l'époque industrielle. C'est-à-dire que pour la première fois, on a des armes très très puissantes qui tirent très loin et qui font des morts par dizaines, centaines de milliers. Au total, il y a eu 10 millions de morts pendant cette guerre, sur 70 millions de combattants. Je donne un exemple, on parle souvent de la France, mais 37% des combattants serbes ont été tués. 37%. Donc, je crois que c'est la technologie qui a permis aussi ces massacres de masse, car il faut savoir que les trois quarts des tués n'ont pas été tués par les baïonnettes, par les tirs de fusil, mais par l'artillerie lourde.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cet énorme canon qui tirait sur Paris?
Oui.
Qui était fondu après, on ne l'a pas retrouvé en fait.
Voilà, tout à fait. Ce canon, alors qu'on a appelé par erreur la Grosse Bertha, est un canon qui tirait à plus de 200 km. Il était posé sur des rails parce que le recul était tel que le canon devait retourner en arrière. Eh bien, ce canon tirait à 200 km, et croyez-moi, les Parisiens en avait une peur telle, mais que d'ailleurs les psychanalystes, ou les psychanalystes n'existaient pas à l'époque, mais les médecins de l'époque, ont inventé un terme pour montrer à quel point l'artillerie pesait sur ces hommes, à la fois bien sûr physiquement, mais aussi psychologiquement. Ils ont appelé ça le shell shock, c'est-à-dire le choc des obus.
Est-ce que on peut dire, au terme de cette émission, quel est ou quel serait l'événement déclencheur qui fait que la guerre a basculé d'un côté plutôt que de l'autre? Parce que les combats sont encore acharnés en 1917, voire en 1918.
Alors, il y a une réponse qui s'impose, c'est le rôle des États-Unis. Les États-Unis sont entrés tardivement en guerre, c'est vrai, mais justement, la puissance industrielle américaine était telle qu'ils ont utilisé et permis de fabriquer des chars en grande quantité. Et c'est, là encore, l'intervention de l'industrie qui a été capitale. Les Américains ont apporté, bien sûr, des soldats, mais ils ont apporté aussi, surtout, du matériel. Et ce matériel a été capital dans les dernières offensives de 1918, qui fait que les Allemands ne pouvaient plus gagner la guerre, parce que d'ailleurs, économiquement, ils étaient complètement paralysés.
Merci, Daniel Herrero, de nous avoir apporté votre éclairage.
Merci à vous.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.